Bonjour et bienvenue. Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter.
Deux dossiers au sommaire aujourd'hui. Deux bruits qui ont couru toute la semaine à travers l'Europe. Le cri des lanceurs d'alerte que certains aimeraient bien museler pour de bon. Et les slogans anti-austérité des Grecs à la veille d'élections peut-être historiques. À Athènes, où se trouve en direct Antoine Chao.
Comme un bruit qui court, réalisé par Jérôme Chélius, assisté de Karen Dehaye et Ismaël Alissat. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier, Gilles Gaillard à Paris et Laurent Groux, ici à Athènes avec moi.
Vous savez, quand on a le savoir, on a le pouvoir. Eh bien, ils veulent garder le savoir pour garder le pouvoir.
Parce que je pense que ce qui se passe en Grèce est quelque chose qui compte et quelque chose qui aura un impact sur la vie de toutes ceux et celles qui vivent en Europe.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Tout le monde est d'accord pour dire que quelque chose ne tourne pas rond. Que le pouvoir n'a plus le pouvoir. C'est le bruit qui court par les temps qui courent. Les économies et les sociétés sont mises à la diète au nom de la dette. Dans les budgets, les coupes claires succèdent aux coupes sombres. Les biens communs sont éparpillés au nom de l'austérité. Et les marchés nous dictent la sortie de crise avec la même conviction qu'ils nous y avaient précipité. Prenez la dette grecque, qui depuis qu'elle est gérée par la Troïka, représente 175% de la richesse produite en une année dans le pays. Donc un fardeau insoutenable pour la population. Les inégalités se creusent et c'est dans ce contexte que le vote de ce dimanche pourrait marquer un tournant avec l'arrivée au pouvoir d'un parti qui veut redonner l'espoir aux citoyens. Antoine nous emmènera donc en Grèce avec cette question. Les inventeurs de la démocratie vont-ils pouvoir rendre le pouvoir au peuple ? Mais alors que des milliards disparaissent et sont prélevés en Grèce pour éponger sa dette, des milliards d'euros de grandes multinationales s'évadent fiscalement dans les paradis luxembourgeois. C'est le scandale LuxLeaks que vous avez appris grâce à des lanceurs d'alerte. Or, les lanceurs d'alerte, eux, sont sur la sellette à Bruxelles comme à Paris, où certains aimeraient bien les faire taire. Comme un bruit qui court à travers l'Europe, celui du whistleblower, le lanceur d'alerte qui s'époumonne dans son sifflet pour attirer notre attention, pour changer de direction. Alors que vous soyez sur le quai ou à bord de la locomotive folle, à Bruxelles ou à Athènes, écoutez bien ce bruit de sifflet jusqu'à 17h sur France Inter.
Antoine Chao.
Pascal Pascariello.
Qui manque-t-il ? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Alexis Tsipras est monté sur le podium.
Je suis Alexis. Seulement Alexis. Bravo Alexis.
Le moment du renversement est arrivé. En avant, peuple, n'aie pas peur d'eux.
We don't have a choice, really. We didn't have any choice but to resist.
Parce que si on a un changement ici, et j'espère qu'on l'aura, ce sera plus facile d'avancer toute l'Europe.
Syriza Podemos, venceremos.
To resist.
Syriza et Podemos, nous vaincrons.
Venceremos.
To resist.
Euphorie générale, c'est vrai, au gymnase Japy mardi dernier, lundi dernier à Paris, pour le meeting de soutien au peuple grec. À Athènes, place Omonia, avant-hier aussi, pour le dernier meeting de campagne d'Alexis Tsipras. Mais les traits sont plus tendus. De l'euphorie, oui, mais de l'inquiétude aussi. Le défi est lourd à relever, ce n'est pas une soirée de gala. Face à la Troïka, qui a mené le pays à la détresse sociale, les électeurs grecs semblent prêts à porter Syriza au pouvoir. Cette jeune coalition de partis de gauche menée par Alexis Tsipras en tête des sondages qui balaye l'échiquier politique précédent des vieux partis Nouvelle Démocratie et PASOK. Syriza est le fruit d'une alliance entre l'extrême gauche, la gauche traditionnelle et les écologistes qui est devenue en 2012 la deuxième force politique du pays avec 72 sièges au Parlement. Syriza propose aujourd'hui d'effacer une partie de la dette qui jugule le pays et de renégocier son remboursement aux créanciers de l'Union européenne sans pour autant sortir de l'euro. Dans toute l'Europe, les regards se tournent avec fascination, perplexité ou stupeur vers cette alternative politique qui rompt avec la doxa néolibérale et la dictature des marchés. D'un côté, ceux qui souhaitent que ça produise un effet d'entraînement et de l'autre, ceux qui craignent l'effet de contagion. Mais aussi ceux qui doutent de la possibilité pour Syriza de tenir ses promesses et ça, on le saura à l'usage. Mais pour l'instant, Syriza est donc donné vainqueur demain face au parti Nouvelle Démocratie d'Anthony Samaras, Premier ministre sortant, un féodé à la Troïka, mais reste à savoir quel sera son score. Majorité absolue pour Syriza, pour pouvoir gouverner les mains libres ou pas, et être obligé de composer avec d'autres tendances. Et aussi à surveiller quel sera le score d'Aube Dorée, le parti d'extrême droite néo-nazi en embuscade, malgré que 7 de ses 18 députés sortants soient en prison, poursuivis pour appartenance à une organisation criminelle. Dans l'affaire du meurtre du rappeur Pavlos Fissas, par un militant d'Aube Dorée en septembre 2013. Comme un bruit qui court, la revue vivante des alternatives sur France Inter se devait d'être sur place, à Athènes, à la veille d'une possible transformation politique et sociale majeure en Europe. Athènes, J-3, alors on est au 74, rue Akademias, et c'est la structure Solidarité pour tous, une organisation fondée par Syriza, pour structurer toutes les initiatives de solidarité sociale qui se sont créées depuis le début de la crise. Depuis 4 ans, depuis l'arrivée de la Troïka et la mise en place de la politique d'austérité qui ont laissé une grande partie de la population grecque sur le carreau. Ok, thank you. C'est un étage. Et c'est Christos qui nous ouvre la porte. Voilà. Un des coordinateurs de la structure. La quarantaine, cheveux en bataille et sweat à capuche. Alors, voilà, construire l'espoir contre les inégalités et la dévastation. 4 ans de résistance et de solidarité. Voilà, c'est Solidarité pour tous.
I'm Christos Giovannopoulos and I'm a member of Solidarity for All.
Christos Giovannopoulos, vous êtes un des coordinateurs de Solidarité pour tous. Comment vous vous sentez aujourd'hui à 3 jours de la victoire supposée de Syriza?
Oui,
je trouve que ces derniers jours ont été assez incroyables parce qu'on sent vraiment que la situation en Grèce et la résistance à la Troïka et aux politiques d'austérité est suivie de très près sur la scène internationale. Je
ne
sais pas si c'est un moment historique, mais en tout cas, c'est un de ces moments décisifs. Parce qu'il porte un certain sentiment d'espoir qu'on a envie d'entendre un peu partout en Europe. L'espoir d'un futur meilleur, d'un futur différent.
Et
voilà un peu les échos qu'on a ces derniers jours. Alors ça nous fait du bien, mais ça nous fait aussi prendre conscience le défi que c'est de réaliser, de donner une forme à cet espoir.
Christos, pourquoi vous avez créé cette structure?
Solidarity for All was created after the grassroots solidarity movement.
Solidarity for All est né des mouvements de solidarité spontanée qui étaient apparus au moment de la mobilisation des indignés grecs à l'été 2011. Et donc au début 2012, les groupes locaux de solidarité qui avaient leurs propres organisations, leurs propres assemblées dans leur quartier, ces groupes ont commencé à créer des structures de solidarité, des cliniques solidaires, des distribution d'alimentaires en dehors des circuits officiels, des coopératives et ainsi de suite. Et en fait, Solidarity for All est arrivé pour faciliter leur action et de créer un espace commun et des outils communs pour se développer. Donc on peut dire que ce mouvement est un mouvement politique et qui se bat donc pour renverser le régime de la Troïka ici en Grèce.
But the main point is that this movement is not only about providing food or
providing health. Mais donc vraiment, fondamentalement, le rôle de notre mouvement n'est pas de fournir de la nourriture ou de la prise en charge médicale. Ce qu'on veut, nous, c'est développer des structures démocratiques qui viennent d'en bas de la société.
I think this context of complete deregulation.
Et on pense que ce contexte de complète dérégulation et de démantèlement des services sociaux ici en Grèce, avec un chômage qui monte à près de 30%, et la pauvreté aussi, avec près de 40% de la population grecque qui est à la limite du seuil de pauvreté, de l'exclusion sociale, nous devons, en tant qu'organisation de solidarité, maintenir l'espoir, pas simplement pour les Grecs, mais à travers toute l'Europe à l'occasion de ces élections. On ne peut pas vouloir changer l'Europe si on laisse l'Europe étouffer toute possibilité de changement en Grèce.
Μικρούλα που σε νέρτη μου έχει βάλει και πόνο στην καρδιά. Μικρούλα που σε νέρτη μου έχει βάλει και πόνο στην καρδιά. Μια νύχτα κάτω στο πασάλιμάνι, μια νόστιμη Σμυρνιά.
Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien?
Ça va bien, merci.
Oui.
France Inter, bonjour.
Ça va,
Sophia?
Oui. Alors vous, Sophia, qu'est-ce que vous faites ici?
Oui.
Moi, ici, je suis responsable de la pharmacie sociale. Là, on est 4 pharmaciennes. Et ce que nous faisons ici, c'est d'offrir le traitement médical gratuitement à des personnes qui ne sont plus couvertes ou pas couvertes de sécurité sociale et n'ont plus accès aux services de la santé.
Donc il y a toute une série de médecins qui consultent gratuitement ici,
oui, bien sûr,
qui prescrivent des médicaments. Donc vous fournissez gratuitement, vous donnez les médicaments. Pour pallier à une carence comme ça, de santé au niveau national, depuis la mise en place du mémorandum et des coupes dans notamment la santé.
Il y a eu
santé.
Des fermetures des hôpitaux. En ce moment, plus de 3 millions de personnes en Grèce ne sont plus couverts de sécurité sociale. Plus de la moitié des hôpitaux ont été fermés ou ferment. Même des hôpitaux de santé mentale.
Et donc ce remède qui a été imposé par la Troïka...
Alors, c'est un poison, ce n'est pas un remède.
Hein. C'est un poison.
Voilà, c'est un poison. Vous savez, en grec, le mot médicament, c'est pharmako, c'est le poison. Pharmaki, c'est le poison, ce qui tue. Alors, ce sont des politiques qui vous tuent. Et vraiment, on a même des victimes qui ont un nom, un visage, avaient un nom, un visage, et qui n'existent plus à cause de ces politiques.
Et là, Sophia, on est à 3 jours des élections législatives. Vous pensez que Syriza, hein, qui est en tête aujourd'hui, peut changer les choses?
Je ne peux pas me permettre de ne pas être optimiste. C'est mon appui en ce moment. C'est l'appui d'une majorité de personnes dans ce pays. Je ne veux même pas réfléchir ou penser que ça pourrait se passer différemment. Et ce qui est aussi important, c'est, et les Européens le connaissent, les peuples en Europe le connaissent, c'est que ce n'est pas un problème en Grèce, du peuple grec, c'est un problème des peuples en Europe en ce moment. Et c'est pourquoi je crois que partout, il y a des réactions de solidarité et les regards vraiment sont tournés vers ces élections. Parce que si on a un changement ici, et j'espère qu'on l'aura, ce sera plus facile d'avancer toute l'Europe.
Aujourd'hui, les dentistes viennent de finir sa garde. Alors,
c'est des gens qui viennent par solidarité, comme vous d'ailleurs, qui êtes pharmacienne.
Tout le monde ici, nous sommes
Sophia Titikou, vous venez un nombre d'heures par semaine.
Plusieurs heures par semaine, n'est-ce pas? Et ces gens ici travaillent, sont des bénévoles, tous et toutes. Alors maintenant, c'est nous vraiment qui... C'est dimanche qu'on peut dire non ou oui, alors.
Mon lait, il tréxe, est-ce qu'il va pour la quête là?
Place Omonia, c'est le dernier meeting de campagne de Syriza, on est à J-3. Alors là, en amont du meeting, il y a un rassemblement de la gauche européenne. Ici, on est à mi-chemin de Syntagma et de Omonia.
La place Klafmonos, la place des pleureurs. Parce que traditionnellement, depuis la création de l'État grec, c'est là que se rassemblaient les employés d'État qui avaient des soucis.
Alors là, bien au contraire, c'est toute la gauche européenne qui regarde vers Syriza et vers ce qui est en train de se passer en Grèce et qui est venue aujourd'hui en soutien, donc à 3 jours du scrutin.
Et effectivement, les étoiles plein les yeux, ça c'est sûr.
Alors là, c'est les Italiens qui chantent Bella Ciao.
Nous, on est d'Italie, on est la haute Europe avec Tsipras et on a fait la Brigada Calimera. On est 450 d'Italie et on est là pour partager une victoire. On espère va faire la première en Europe. Et on est Calimera, bonjour Grèce, bonjour Europe. Parce que d'ici, on va changer l'Europe, à partir d'ici. Nous, on veut combattre l'austérité. Il est en train de générer des pauvres, des morts, des conflits, des situations d'injustice en toute Europe. Et c'est pour ça qu'on se sent en combat.
We are here to see the situation in Greece and observe the elections.
On est venu en Grèce pour voir comment ça se passe ici et observer les élections.
Et vous venez d'où?
Turkey. We're from Turkey.
On vient de Turquie.
Our name is Movement for Permanent Revolution.
Nous sommes le mouvement pour la révolution permanente. Le moment du renversement est arrivé. En avant, peuple, n'aie pas peur d'eux.
L'autre Europe avec Tsipras, qui ouvre le cortège de la gauche européenne, qui est venue ici soutenir donc Syriza pour ce dernier meeting de campagne, ce dernier rassemblement. À la place Omonia, qui est en train de se remplir là, il y a une estrade qui a été installée avec toute une...
Grecs et l'immigrés unis.
Ça c'est les pancartes hein, que les gens tiennent, grandissent.
On vote pour que notre voix soit enfin entendue en Europe. Pour les retraites, pour nos droits à la sécurité sociale.
Alors qu'est-ce qui vous amène ici madame aujourd'hui?
L'Elpida.
L'espoir.
Για να αλλάξει κάτι.
Pour que les choses changent.
Να φύγει όλο αυτό που que ζούμε.
Que tout ça s'en aille, tout ce qu'on vit.
Όχι να αλλάξει κάτι, πολύ ριζική αλλαγή, δηλαδή δεν περιμένουμε. Απλά κάτι, κάτι άλλο.
On s'attend pas non plus à un changement radical, mais que quelque chose change.
Δεν ονειροβατούμε.
On rêve pas trop quand même.
Κάτω, περπατάμε.
On marche encore à terre.
2 χρονών. Austria, πρέπει να ζήσουν.
J'ai 2 enfants de 22 et 23 ans, il faut qu'ils vivent.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.
Avec nous, le président du ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.
Je suis Alexis. Seulement Alexis. Bravo, Alexis.
Να αλλάξω νότος. Μαζί με τον Νότο, με τους Ποδέμους από την Ισπανία, από Ιταλία, Πορτογαλία, να αλλάξουμε την Ευρώπη.
Avec, en même temps, avec ceux du Sud, de l'Italie et de l'Espagne, Podemos, on va changer toute l'Europe.
Μια Ευρώπη χαρούμενη, από εδώ ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Ομόνια με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι μαζί να αλλάξουμε την Ευρώπη.
C'est d'ici, de la Grèce, d'Athènes, de la place Omonia avec Alexis Tsipras, que le monde va changer, que l'Europe va changer.
Alexis Tsipras est monté sur le podium.
On veut que vous soyez avec nous pour qu'on en finisse pour toujours avec la corruption, avec pour toujours avec
Le népotisme. Et la Grèce, notre patrie, le pays qui a donné naissance à la démocratie. À partir de dimanche, la démocratie revient. Et elle redonnera la lumière à toute l'Europe.
Là, il y a un grand drapeau. C'est le drapeau de Syriza qui passe au-dessus de la foule. Et tout le monde se le passe de main en main. C'est le drapeau de Syriza qui va traverser toute l'avenue Athénias. Et voilà, tout le monde se le passe. Voilà. Un grand moment de ferveur populaire ici à Athènes. Avec tous les drapeaux toujours qui sont brandis et qui flottent au vent de la gauche de Syriza. Qui se propose de libérer un peuple. Libérer un peuple d'une politique d'austérité qui l'a saigné, blessé. Alexis Tsipras, c'est son dernier meeting de campagne. Avec beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de drapeaux de toutes les couleurs. Et semble-t-il, Pablo Iglesias de Podemos est là aussi, il va prendre la parole tout à l'heure.
Syriza Podemos, venceremos.
Syriza et Podemos, nous vaincrons.
Venceremos.
Nous vaincrons en espagnol. Et il accueille Iglesias, le représentant de Podemos.
Voilà Pablo Iglesias qui est invité et qui va monter sur le podium. En convergence des gauches européennes et des gauches grecques et espagnoles.
Campeones, campeones.
Donc là c'est Iglesias en grec.
En grec, oui. Changement en grec. On soutient le Syriza. Le changement en Grèce s'appelle Syriza, le changement en Espagne s'appelle Podemos.
Jusqu'à la victoire, Syriza et Podemos.
Vendredi 23, on est à J-2 de l'arrivée de la gauche au pouvoir en Grèce avec Alexis Tsipras et son parti de gauche Syriza. Attentes et inquiétudes.
Alors ici, c'est l'école d'architecture, mais c'est Polytechnique aussi, hein, c'est
ouais,
ça
c'est Polytechnique.
Ça a été un haut lieu de la résistance à l'époque des colonels, pendant la dictature.
Alors oui, c'est vrai, c'était un point de résistance. Ils ont tué quelques étudiants. Et après, la révolution a commencé.
Et vous, Dimitris, vous êtes étudiant ici, hein ?
Dans la quatrième année.
Ah, c'est votre atelier ici, non ? C'est une salle de... salle d'archi, quoi.
C'est la salle où on travaille.
Alors, et Dimitri, et aujourd'hui, comment les étudiants ici de l'Université Polytechnique ressentent la situation et la supposée arrivée au pouvoir de Syriza ?
On a beaucoup d'attentes parce que les quatre années qui ont passé étaient vraiment terribles pour le pays. Ça va être un scénario extraordinaire de voir Syriza au pouvoir, mais aussi on a peur. C'est tellement important qu'il va réussir à cette mission. Ce n'est pas juste de gagner, c'est... on a peur qu'est-ce que ça va signifier pour la Grèce, l'échec du programme de Syriza.
Vous avez peur d'un retour de balancier si justement Syriza n'arrive pas à mettre en place son programme et de mettre en place une politique différente, d'une montée de l'extrême droite, c'est ça ? Aube dorée, j'imagine.
Oui, c'est exactement ça. Je parle d'aube dorée, oui, c'est vrai. Des partis néonazis. C'est vraiment un grand peur pour moi personnellement. Qu'est-ce qui va passer ici en Grèce si ce programme n'est pas réalisé, n'est pas réussi ? Le nom de musique qu'il y avait, c'est Kilapi.
Et donc là, il y a son effigie, un dessin sur le mur. C'était le 18 septembre 2013.
Ouais. Graffiti, c'est affaire avec l'aube dorée. Ils ont tué Pavlos Fissas.
Un chanteur, c'est ça? C'est
un chanteur, un rappeur.
Ouais.
Pavlos Fissas qui l'a pris.
Με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μήκο το σταθείς, αν πρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για αυτούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάποιου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι ποιος σημαντήλησαν με πυρήνατες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φωτικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους. Περιμένω και σιγάνι φωτικό. Ποιος σημαντήλησαν με πυρήνατες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φωτικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους. Περιμένω και
Et demain, dès 18h en France, puisque les bureaux de vote ferment à 19h ici en Grèce, on aura les premières estimations et donc une première partie des réponses aux questions que l'on se pose. De toute façon, on reviendra à Athènes la semaine prochaine.
Comme un bruit qui court.
Le lanceur d'alerte, ça peut être un chercheur, un salarié d'entreprise ou un simple citoyen qui dénonce des faits dangereux pour la santé ou l'environnement.
Mediator, Amiante, Fichier Stick, UBS, Watergate.
Dans sa petite ville des Vosges, c'est toujours un anonyme. Pourtant, Antoine Deltour, 28 ans, est l'homme à l'origine des révélations LuxLeaks.
Edward Snowden n'a l'air ni intimidé ni anxieux. Pourtant, il est recherché par les services secrets américains.
Je suis un homme comme les autres. Qui fait son boulot tous les jours.
Surveillance.
On a appris hier soir la mise en examen de la filiale française de la banque suisse UBS.
Des investigations avaient été lancées après des dénonciations d'anciens salariés.
Elle est soupçonnée d'avoir cherché à convaincre de riches clients français d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse.
Surveillance.
Alors que les Grecs luttent pour se réapproprier le pouvoir, c'est peut-être un peu de notre pouvoir qui risque d'être renié à Bruxelles et à l'Assemblée nationale. Au nom de la guerre économique, les entreprises nous demandent de faire preuve de patriotisme. Et oui, elles sont menacées de toutes parts, et demandent donc à être protégées, et en particulier leurs secrets des affaires. Vaste champ qui regroupe fichiers, procédés de fabrication, listes de produits chimiques, bref, tout ce que les entreprises ne souhaitent pas rendre public et parfois au détriment de la santé publique, comme on l'a vu avec l'affaire du Mediator ou des finances dans les scandales d'évasion fiscale organisée. Alors au nom de la compétitivité, et oui, les entreprises et les milieux d'affaires ont réussi à convaincre les élus du bien fondé de se doter d'une loi prévoyant de punir quiconque qui révèle sans autorisation ou détourne toute information protégée au titre du secret des affaires. Alors que cette semaine, les parlementaires discutaient à Bruxelles de ce projet de directive, à Paris, sans attendre, dans la nuit du 17 janvier, en catimini, la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la loi Macron intégrait déjà un texte sur la protection du secret des affaires. Pour comprendre ce projet, partons d'abord à Bruxelles.
Du Luxembourg, à l'entrée du Parlement, justement, des manifestants, des personnes qui représentent les victimes de l'hépatite C. C'est pour demander justement à ce qu'il y ait un accès aux soins et des négociations avec les industries pharmaceutiques. Et aujourd'hui, on vient pour toute autre chose, une directive sur le secret d'affaires qui est discutée cette semaine au Parlement européen, qui a déjà fait son entrée dans la loi Macron en France. En tout cas, il y a des amendements qui ont été proposés sur le secret d'affaires en France. Et cette semaine, c'est au Parlement européen que c'est discuté.
faut aussi que tu sortes de ta bulle. Parfois, comme moi, je dois sortir et parler avec des gens normaux qui sont pas ici tout le temps.
Oui, mais qui ont un cerveau, tu vois, c'est...
T'as un débat intéressant avec une bière.
Absolument. Ciao. Salut, Hans. Pardon. Oui. Bonjour.
C'est une discussion justement sur comment prendre accès aux négociations, aux discussions ou à la politique qui se décide ici.
Ben voilà, c'est ça. Donc je m'appelle Martin Pigeon. Je travaille pour une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, Observatoire de l'Europe des multinationales, et dont l'objet est de décrire l'influence excessive, à notre avis, de ces acteurs sur les politiques européennes, sur les décisions européennes.
Et notamment, en particulier, justement, du poids des lobbies à Bruxelles.
On estime qu'à Bruxelles, il y a entre 20 et 30 000 lobbyistes professionnels. À peu près 70% représentent des intérêts commerciaux, 20% des intérêts publics, donc les États, les régions, les villes. Et les 10% qui resteraient seraient la société civile organisée, donc des associations comme la nôtre ou des syndicats. Il y a encore du chemin à faire pour arriver à une véritable lisibilité, à une véritable transparence. Transparence, non, on n'y arrivera jamais, mais à une véritable lisibilité, en tout cas, de ce phénomène-là.
Et alors justement, là, on va rentrer au Parlement.
Il y a une série d'auditions dans différentes commissions parlementaires au sujet d'un texte qui nous occupe beaucoup, qui est le projet de directive sur les secrets d'affaires. C'est quelque chose qui est demandé par l'industrie, notamment depuis très longtemps.
Ah, on s'est réfugié dans une des grandes allées à l'intérieur du Parlement européen. Alors justement, on va essayer aujourd'hui d'informer sur ce qui est débattu en ce moment au Parlement européen. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? Comment est défini le secret d'affaires?
Ce texte-là, il permet aux entreprises de poursuivre toute personne pour une acquisition, un usage ou une publication illégale de secrets d'affaires.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un instrument juridique pour les entreprises pour pouvoir poursuivre et pénaliser en fait la divulgation de documents ou de fichiers internes à l'entreprise.
Qu'elles considéreraient comme des secrets d'affaires, exactement. C'est quelque chose qui, à ma connaissance en tout cas, vient surtout des États-Unis, où là, la définition et la protection des secrets d'affaires est très extensive. Par exemple, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir accès à la composition des fluides qui sont employés par la fracturation hydraulique aux États-Unis. C'est considéré comme un secret d'affaires.
Dans l'extraction des gaz de schiste, hein,
oui,
le produit utilisé pour fracturer le sol,
les fractures de la roche ouverte. Ouais. Et donc, ça veut dire que vous avez des gens qui se retrouvent avec des produits chimiques, manifestement de synthèse, dans leur eau potable, qui portent plainte et qui se font débouter parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la preuve que ce produit chimique est employé par l'entreprise d'extraction de gaz de schiste qui est à côté de chez eux et qui, manifestement, est la source de ce produit-là. Quand on interdit la publication de ce genre d'informations, ça veut dire qu'on permet aux entreprises d'échapper à leurs responsabilités. Ce qu'on a vu, c'est que les Français étaient très actifs là-dessus. Des entreprises comme Alstom, comme Saint-Gobain aussi. Puis après, bon, des filiales françaises de groupes mondiaux comme Procter & Gamble, par exemple, qui sont dans une coalition pour les secrets d'affaires. C'est une coalition d'industriels qui porte explicitement ce nom, Trade Secrets and Innovation Coalition. On voit qu'ils sont très soutenus par l'industrie pharmaceutique, par l'industrie de l'armement, par l'industrie chimique évidemment, par l'industrie agroalimentaire aussi. Enfin, c'est très très large. On voit par exemple que le FPIA, donc le lobby de l'industrie pharmaceutique ici à Bruxelles, a accueilli extrêmement favorablement le projet de la Commission, en expliquant dans son communiqué de presse notamment que presque l'essentiel des informations, des documents et des matériaux utilisés par l'industrie pour élaborer de nouvelles molécules, par exemple, tombe sous le chef du secret d'affaires. Et donc l'industrie pharmaceutique s'oppose à l'accès public à ces informations-là en prétextant que ces études-là coûtent très cher.
C'est toutes les données de produits chimiques ou...
Ce sont donc les essais cliniques de l'industrie pharmaceutique, les études toxicologiques de l'industrie des pesticides, mais c'est aussi toutes les études qui sont faites sur les additifs alimentaires et de manière générale, en fait, toutes les études scientifiques menées par l'industrie sur ses propres produits pour évaluer leur toxicité. Et donc ce qui est important, c'est qu'on puisse savoir qui prend quel risque et pourquoi, et qu'on puisse avoir une discussion informée là-dessus. Et après, on discute, et après, on décide. C'est ça, la démocratie. Et le problème, c'est qu'avec un texte comme ça, n'y a pas de discussion possible. Vous ne savez pas, et vous ne pouvez pas savoir. Et si vous hésitez à savoir, on va vous poursuivre en justice.
Je reprends cette définition très floue. Ça veut dire que tout peut devenir un secret d'affaires. Ça veut dire que ça peut être des documents, des fichiers de clients, des listes de produits chimiques. Ça concerne tout le secret d'affaires, non ?
Alors, c'est très important parce que, pensons au scandale LuxLeaks, par exemple, ça a été la publication de milliers de documents qui étaient détenus par PricewaterhouseCoopers au Luxembourg, qui sont en fait des preuves d'évasion fiscale massive de la part des plus grandes multinationales de la planète, et dont les victimes sont les populations européennes, sont nous, parce que c'est de plus en plus de grandes entreprises comme ça qui font des profits importants, qui ne payent plus leurs impôts. Il se trouve qu'il semblerait qu'un nombre important de ces documents ait été fuité par un ancien employé français de PricewaterhouseCoopers, dont le nom est apparu dans la presse, donc on peut le donner, il s'appelle Antoine Deltour. PricewaterhouseCoopers poursuit aujourd'hui Antoine Deltour au Luxembourg pour un certain nombre de chefs d'accusation, dont le fait d'avoir publié des secrets d'affaires.
Antoine Deltour, 28 ans, est l'homme à l'origine des révélations LuxLeaks. Des documents confidentiels qui révèlent des accords fiscaux entre le Luxembourg et des centaines de grandes entreprises. Amazon, Apple, IKEA, en tout plus de 300 multinationales citées. Ces documents, Antoine Deltour les a trouvés chez PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit et de conseil dans lequel il a travaillé pendant 2 ans. Il était, dit-il, consterné par cette optimisation fiscale à l'échelle industrielle. Alors il pose sa démission. Mais à la veille de son départ, il y a 4 ans, il découvre un dossier informatique qui contient des centaines de ces documents. C'est là qu'il prend une décision lourde de conséquences.
Donc ça veut dire qu'effectivement, donc avec cette législation, on ne pourra plus révéler des affaires de corruption, de fraude fiscale, d'évasion fiscale.
On pourra toujours, mais on est en prison. Enfin, toutes ces informations-là, on doit pouvoir continuer à y avoir accès. Alors c'est difficile, c'est dangereux. C'était déjà dangereux avant les secrets d'affaires de toute façon. Si on commence à donner des droits aux entreprises de poursuivre des gens à travers l'Europe pour ce genre de faits, ça va être de plus en plus difficile d'abord pour les lanceurs d'alerte de franchir le pas, parce que ça demande un courage insensé de faire ça, du sacrifice que ces gens-là font pour le bien commun. Mais c'est pas simplement ça. C'est vous qui êtes journaliste, ça vous concerne directement. Tous les gens qui travaillent sur les entreprises, mais moi aussi, parce que nous, on fait des enquêtes essentiellement sur le pouvoir des entreprises, donc on a besoin de publier des informations internes à des entreprises. C'était déjà très difficile. Ça va devenir encore plus compliqué.
L'une des députées qui défend ce texte dans le sens très pro-entreprise, c'est Constance Le Grip, qui est députée française.
Elle est rapporteure sur ce texte dans la commission directrice. Donc ça veut dire que c'est elle, en fait, au Parlement, qui a la voix la plus importante sur ce texte-là.
Innovation, compétitivité, savoir-faire, confiance, croissance,
connaissance. Moi, ce que j'ai entendu dans l'audition, quand elle a introduit la séance, création, c'était une liste de mots-clés. Et ce n'était pas une phrase, protection. C'était des mots-clés. Et dans ces mots-clés, c'était quoi ? C'était innovation, compétitivité, entreprise. Enfin, je n'ai pas entendu le mot liberté, je n'ai pas entendu le mot information. Santé, je n'ai pas entendu ça non plus. Environnement non plus. On nous explique qu'il est absolument impératif d'avoir un régime harmonisé et amélioré au niveau européen pour faire mieux concurrence avec les États-Unis, pour lutter contre l'espionnage industriel chinois, ce genre de choses. Le problème, si vous voulez, avec ce genre d'argument, c'est que si on fait la course avec les pires, on va jamais gagner, quoi. Ou alors tout le monde va s'aligner sur, effectivement, le régime politique chinois, c'est-à-dire un capitalisme en régime dictatorial. Est-ce qu'on veut vraiment ça ? Moi pas.
Innovation avec le projet de texte qui nous est présenté.
Compétitivité
par la Commission savoir-faire européenne.
Écoute, confiance.
J'ai un secret à te dire, surtout garde-le pour toi. Écoute, mon cœur brûle de te le dire, son désir est d'être à toi, car tu l'as rendu fou. Ce doux secret, je te l'avoue, garde-le bien. J'en suis jaloux. Écoute, j'ai un secret à te dire, surtout garde-le pour toi. Écoute, cache-le à tout le monde, et qu'il ne s'envole pas. C'est un secret à nous.
Innovation. innovation, compétitivité, le discours de Constance Le Grip, eurodéputée française UMP, ressemble à s'y méprendre à l'argumentaire des lobbyistes qui défendent le projet de directive pour les entreprises. Alstom, Dassault, Pechiney, Sanofi, la liste est longue. Laurent est l'un des 30 lobbyistes déclarés de Hill & Knowlton, qui avec 4,5 millions d'euros est l'un des principaux cabinets de lobbying de Bruxelles.
Le nom des entreprises pour lesquelles je travaille, je préférerais pas révéler le nom des clients pour lesquels je travaille parce qu'on a des clauses de confidentialité qui sont assez strictes. On travaille pour des boîtes françaises du CAC 40.
En quoi consiste votre travail de lobbyiste à Bruxelles ? À quoi précisément ça consiste ?
Ben alors c'est assez simple, hein. C'est vraiment de la mise en relation entre les entreprises privées, les associations d'entreprises qui s'unissent parce qu'ils ont une cause commune avec les décideurs politiques. Il faut savoir quels députés on va cibler, pourquoi et ce qu'on va leur dire. Et on adapte évidemment les messages à faire passer en fonction de qui on va rencontrer. Par exemple, il y a un dossier sur lequel on travaille depuis 3 ans, presque 4 maintenant, c'est sur les secrets d'affaires. Et ça, c'est typiquement un dossier où là, on est intervenu au bon moment, donc vraiment en amont du processus de décision européen, parce qu'en fait, on est allé avec des entreprises françaises, européennes et même non européennes pour parler à la Commission, pour leur dire « nous avons un problème, c'est le vol de secrets d'affaires en fait ». Et on a besoin d'une législation européenne commune sur la protection des secrets d'affaires. Donc ces gens-là, ils ont besoin d'aide et en fait, ils le demandent. Hein. Ils disent, écoutez, je ne connais pas du tout votre industrie, votre secteur. Je dois donner mon opinion sur ce projet de loi. Si j'écris un amendement, est-ce que c'est en ligne avec vos objectifs ? Et là, on leur dit oui ou non. Si on doit le changer, on lui dit, bah, est-ce qu'on pourrait le mettre comme ça ? Et après, le député, l'État membre, c'est lui qui met son nom sur l'amendement. Donc, il a intérêt à être carré et bien argumenté. Sinon, c'est lui qui a l'air un peu idiot.
Est-ce qu'il y a des arguments récurrents ? Est-ce qu'il y a une stratégie pour essayer de convaincre du bien fondé ?
Bah, c'est sûr que les députés ou nos interlocuteurs qui sont plutôt centre-droit, on va mettre en avant les arguments portant sur l'économie, l'innovation, etc. Et plus à gauche, ça va être, je caricaturise, hein, mais tout ce qui est environnement, social, etc.
Bureau 202. J'en ai avec Michel. Arrive, vas-y. Je monte dans les arcanes du Parlement européen. Et c'est un peu un labyrinthe. 202, c'est là.
Bonjour. Excusez-moi pour le retard, je me suis perdue un peu dans les couloirs du Parlement.
Ah là 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 là. Notre Europe, hein. Alors, Michèle Rivasi, députée européenne, Europe Écologie et vice-présidente des Verts sur le plan européen. Si on ne fait pas attention à cette directive, tout sera secret d'affaires. Vous, journaliste, vous voulez faire une investigation dans une boîte. Eh bien, ils pourront vous attaquer en disant « Ah, mais vous avez divulgué un secret d'affaires ». Or, c'est grâce au fait de pouvoir divulguer un dysfonctionnement dans une boîte qu'on peut améliorer les choses. Et ça pourrait être pareil sur les lanceurs d'alerte, qu'ils soient à l'intérieur de la boîte ou à l'extérieur et qui dénoncent dans les laboratoires pharmaceutiques le mal qu'on a à obtenir l'information. Même pour vous dire, ils ont attaqué l'Agence européenne des médicaments parce qu'on demandait à avoir accès aux études cliniques. Ils ne veulent pas, parce qu'ils disaient accès aux études cliniques, de savoir quel est l'effet des médicaments. Pour nous, c'est un secret commercial. Et hier, j'ai écouté le MEDEF, j'ai écouté des grosses entreprises européennes. Ils ne veulent surtout pas qu'on bouge la définition parce qu'ils veulent avoir une marge de manœuvre, vous voyez, de la... Qu'est-ce que c'est un secret d'affaires ? Nous, on veut le définir. Nous, on ne voudrait pas empêcher l'accès à l'information pour des institutions ou pour des citoyens, ce qui touche à ce qu'on appelle l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on se bagarre vraiment par rapport à ce texte. Et on veut avoir toute une partie exemption, c'est-à-dire renforcer le pouvoir d'investigation des lanceurs d'alerte, des journalistes, de l'accès à l'information par rapport aux associations qui vivent près des entreprises, etc., pour faire en sorte à ce qu'il y ait une ouverture.
Donc, en termes de pénalité, qu'est-ce qu'on peut encourir si on révèle un fameux secret d'affaires ?
Alors, là, il y aura des sanctions à la clé au niveau de la directive, mais ce n'est pas précisé. Mais regardez, dans le cas de la loi Macron, en France, eh bien, la France devance en disant que ça pourra aller de 350 000 euros à 750 000 euros, avec prison à la clé.
Alors, 3 ans à 7 ans de prison.
Ouais. Donc, si c'est vraiment quelqu'un qui a volé un fichier, quelqu'un qui a volé un design, par exemple, dans l'industrie automobile, OK. Mais quelqu'un qui a dit qu'il y a un dysfonctionnement dans cette entreprise qui fait courir des risques sur la santé des travailleurs ou la santé des riverains autour d'une centrale, eh bien, il pourra être attaqué. Quand Manuel Valls a dit « j'aime les entreprises », mais nous aussi, on aime les entreprises, il n'y a pas de souci, sauf que aimer les entreprises, ce n'est pas leur donner des armes pour aller à l'encontre de la transparence de l'information pour l'intérêt général. La droite n'a pas réussi à le faire, c'est les socialistes qui vont réussir à le faire. On prend une voie qui va encore diminuer l'emploi et qui va encore donner le pouvoir à des multinationales qui veulent... Vous savez, quand on a le savoir, on a le pouvoir. Eh bien, ils veulent garder le savoir pour garder le pouvoir.
Oui, bonjour. Je suis Eva Joly. Je suis députée européenne pour Europe Écologie Les Verts en France. C'est une vieille revendication des entreprises et jusqu'à maintenant, le législateur a toujours résisté. Et pour moi, c'est tout à fait étonnant qu'on profite du loi Macron pour voter un amendement en ce sens. Pour moi, c'est un recul des libertés, c'est un recul de la protection des lanceurs d'alerte. Et on voit bien que la situation des lanceurs d'alerte, comme Stéphanie Gibault par exemple, qui a perdu son emploi, qui est au chômage et aujourd'hui au RSA, c'est une situation terriblement dure. Et pourtant, c'est grâce à eux que nous connaissons l'étendue de la fraude fiscale efficacement.
Je vais rejoindre Stéphanie Gibault, une ex-salariée de la banque suisse UBS, qui passe au conseil des prud'hommes à Paris, où elle a déposé plainte contre son ancien employeur pour harcèlement. Son histoire à Stéphanie commence en 2008. On lui demande d'effacer, de supprimer certaines de ses archives, son disque dur, des fichiers, des documents. Elle refuse et commence à se poser des questions et mène sa propre enquête en interne, malgré les pressions justement de sa direction, jusqu'en 2009. Où elle va déposer plainte contre la banque, où elle va justement révéler que la banque ouvrait des comptes en Suisse non déclarés pour ses clients français. Donc, je dois aller la voir. Elle est ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. On rentre.
Allez.
Bonjour.
Bonjour.
Stéphanie Gibault, bonjour.
Vous allez passer au prud'homme, c'est ça ?
Oui. Comment ça va ? Je suis très stressée, forcément, parce que moi, c'est un enjeu quand même extraordinaire, cette histoire. Ça dure depuis 2007-2008, donc vous voyez, c'est 8 ans de ma vie. Donc depuis juillet, je suis au minima sociaux, 420 euros par mois, je crois. Enfin, c'est complètement édifiant, alors que je suis quelqu'un d'honnête, que j'ai dit la vérité, que je me suis opposée à des choses qui étaient malhonnêtes. Et le fait, si vous voulez, d'avoir en plus du harcèlement, en plus de tout ce qu'ils m'ont fait quand j'étais à l'intérieur de la banque, le fait, si vous voulez, d'être complètement discrédité dans les médias, puisque depuis que l'affaire est médiatique, depuis 2010, UBS ne fait que dire que je suis une menteuse, une manipulatrice, quelqu'un qui a inventé une histoire, si vous voulez, c'est quand même cher payé, parce que il y a, en plus de me faire ce qu'ils m'ont fait, il y a des dommages collatéraux au niveau de mes enfants. Vous voyez, mon fils pleurait ce matin, il n'arrête pas de m'envoyer des textos, il est à l'école et il me dit... Voilà, c'est super dur, c'est très très dur. Bien évidemment, tout le monde sait que je dis la vérité, donc il serait temps que je sois reconnue par la justice française en tant que telle. Bien évidemment, quand on me dit qu'aujourd'hui je suis reconnue en tant que symbole, finalement, ça explique la violence des choses, vraiment.
Vous êtes dans une situation où vous touchez le RSA, alors que l'État français va récupérer quelques milliards, grâce à votre travail, j'allais dire.
C'est la caution qui est de 1,1 milliard, sur laquelle la banque a fait un appel et a perdu. ne s'en vante pas, on est bien d'accord. L'amende pourrait être de 4 à 5 milliards d'euros. Donc oui, c'est en partie grâce à moi, oui. Ou à cause de moi, c'est toujours la même chose.
Vous êtes ce qu'on appelle une lanceur d'alerte, c'est-à-dire que ces fichiers-là pourraient être considérés aujourd'hui comme des secrets d'affaires. Et parallèlement, l'État français est en train de faire passer des amendements pour punir ces lanceurs d'alerte de façon plus dure.
Quand je fais de l'humour, je dis que c'est ubuesque. Il faut être fort. Et c'est là où c'est parfois très compliqué. Vraiment.
Ubuesque, cynique, alors que les lanceurs d'alerte comme Stéphanie Adletta a récupéré les milliards perdus de l'évasion fiscale, les députés, eux, passent un projet de loi pour rendre plus opaque le monde économique. Parmi les amendements passés en catimini dans la loi Macron sur le secret des affaires, l'un d'entre eux a retenu notre attention, celui de la députée socialiste Bernadette Laclais, autorisant les entreprises à demander la non-publicité de leurs comptes annuels.
Allô ?
Oui.
Voilà, Bernadette Laclais, députée de Savoie.
Du groupe socialiste ?
Du groupe socialiste.
Donc, vous avez été l'auteur, dans le cadre de la loi Macron, plusieurs amendements ont été proposés concernant le secret des affaires. Et vous avez été l'auteur d'un amendement. Est-ce que vous pouvez m'en parler, le présenter ?
Oui, donc c'est un amendement qui propose que les entreprises qui le demandent puissent ne pas publier les comptes les concernant. Donc c'est un amendement que j'avais déposé puisque de plus en plus nous rencontrons dans nos circonscriptions des entreprises qui rechignent à déposer leurs comptes auprès des tribunaux de commerce parce que ces comptes sont regardés par la concurrence. Il y a un certain nombre de pays pour lesquels aujourd'hui des entreprises sont directement en concurrence qui ont des systèmes beaucoup moins performants que les nôtres où l'accès à ces données est beaucoup plus complexe.
Lesquels ?
Vous avez un certain nombre de pays dans les pays dits émergents ou les pays asiatiques qui n'ont pas cette contrainte. C'est une information que toutes les entreprises nous communiquent.
Donc c'est des entreprises qui vont vous demander de passer cet amendement.
Directement, c'est des entreprises qui n'ont pas cette obligation.
Donc c'est des entreprises qui vous ont demandé de passer cet amendement. Vous n'avez pas vérifié l'information, Madame Laclais. Vous ne vérifiez pas les informations qu'on vous communique en tant que députée ?
Écoutez, celle-ci, non. Mais peut-être que j'ai eu tort de ne pas la vérifier, cette information. Vous avez peut-être...
Mis à part le fait qu'évidemment, c'est un grand recul, votre amendement, pour la transparence en France. Parce que ça pourrait aider justement les grandes multinationales à ne pas être transparentes sur leurs comptes annuels. Donc vous avez passé l'amendement avant même de vérifier les informations que vous aviez reçues des entreprises qui vous demandaient de passer cet amendement pour elles.
Non, ce n'est pas des entreprises qui me l'ont demandé, c'est des personnes que j'ai rencontrées dans ma circonscription qui sont des entreprises que j'ai visitées.
Mais des entreprises, c'est bien ça que je vous dis. C'est-à-dire qu'en tant que députée, vous n'avez pas vérifié l'information.
Si, j'ai vérifié cette information auprès des entreprises concernées, madame.
Vous ne pouvez pas me les donner ? Vous êtes pas capable ?
Je ne veux pas donner le nom des entreprises qui m'ont sollicité.
D'accord. Eh ben, je vous remercie pour cette interview.
Au revoir, madame.
Et non, on ne connaîtra pas le nom des entreprises, mais un amendement fait par les entreprises, c'est ce qu'on appelle aussi un amendement clé en main. Alors ce projet défendu par le MEDEF, porté par l'UMP et récupéré par le Parti Socialiste, sera débattu à partir de lundi et pendant 2 semaines dans le cadre du projet de loi Macron à l'Assemblée nationale. Affaire à suivre.
C'était comme un bruit qui court. On se retrouve samedi prochain à 16h. On retournera à Athènes pour faire un petit bilan du résultat des législatives en Grèce et de la marge de manœuvre de Syriza. En attendant, laissez-nous vos messages et commentaires sur le site de l'émission.
Rendez-vous sur franceinter.fr donc et sur les réseaux sociaux où vous pourrez nous laisser vos contributions sous forme de radio Hit Yourself. Remixez-le, vous-le. Tout ça sur le site de France Inter. Il me reste 1/10 de seconde pour vous dire à quel point nous pensons tous à José Arthur.